Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Bonjour, bienvenue dans Ça commence par nous, c'est parti pour une heure d'émission. Chaque semaine, on vous aide à y voir plus clair pour décrypter les grands enjeux écologiques de notre époque et surtout, on vous présente des solutions concrètes pour construire un monde meilleur dans votre quotidien. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet crucial pour les prochaines années, c'est la pollution cachée du web. Et oui, en fait, Internet, c'est des serveurs bien cachés un peu partout dans le monde, mais nous, on ne les voit pas. Et en fait, on sait même pas très bien comment ça fonctionne. Et ouais, c'est pas très palpable tout ça. Et pourtant, ça pollue et pas qu'un peu. Imaginez plutôt, aujourd'hui, le secteur informatique consomme plus d'électricité qu'un pays tout entier comme le Japon. Et le problème, c'est que ça augmente de manière exponentielle, Internet. C'est bien sûr nos ordinateurs, mais aussi nos smartphones, puis maintenant les montres, les thermostats et même bientôt les vêtements. Et certaines études prédisent que le trafic Internet mondial devrait déjà avoir triplé d'ici 2020. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, c'est tout simple. Une fois qu'on comprend un peu mieux comment ça marche, on n'a plus qu'à adopter quelques éco-gestes hyper concrets pour pouvoir surfer sur le net sans détruire la planète. Et pour nous aider, à y voir plus clair, nous avons avec nous des invités qui proposent des alternatives éco-responsables de qualité. Des alternatives qui vont nous permettre de changer nos habitudes et d'aller dans le bon sens. Clément nous présentera Lilo, qui propose à la fois un moteur de recherche solidaire et une solution d'email responsable. Ensuite, nous accueillerons Louis, qui viendra nous parler de CleanFox pour se débarrasser des newsletters récalcitrantes. Et enfin, Julien nous présentera Lola, une solution de cloud sécurisée à la maison. Sur le plateau avec moi, il y a bien sûr Hélène Dédény, la spécialiste du zéro déchet, et Mélanie de OneArt, qui nous partagera tout à l'heure son bon plan. Allez, c'est parti pour cette nouvelle émission de « Ça commence par nous ».
Ça commence par moi.
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 Ça commence par nous.
Et aujourd'hui, dans Ça commence par nous, on va vous donner toutes les actions à mettre en place pour surfer sur le web de manière plus éco-responsable. Et j'accueille tout de suite notre premier invité, Clément Lebras de Lilo. Bonjour Clément.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter le moteur de recherche de Lilo en quelques mots, Clément, s'il te plaît ?
Oui, tout à fait. Donc Lilo, c'est un moteur de recherche qui va fonctionner comme Google. Donc on peut faire ses recherches qu'on ferait sur d'autres moteurs. La spécificité, c'est qu'on va pouvoir financer avec ses recherches des projets socio-environnementaux, simplement en réalisant des recherches. Donc comment ça marche ? Vous allez en fait générer une petite goutte d'eau à chacune de vos recherches et vous allez ensuite pouvoir reverser cette goutte d'eau ou ces gouttes d'eau à des projets, des associations. Donc il y a par exemple Médecins du Monde, WWF, mais aussi des entreprises sociales. Et donc vous pouvez simplement, en faisant des recherches, financer des associations.
Mais cet argent, du coup, comment il arrive ?
Alors cet argent, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il provient de vos recherches et plus spécifiquement des liens commerciaux qui sont présents juste au-dessus de vos recherches. Donc ça, si vous avez déjà fait une recherche sur Internet, vous voyez normalement de quoi on parle. C'est les petits liens que vous voyez tout au-dessus de vos recherches, les premiers liens annonces, voilà. Et ça, en fait, ça génère pas mal d'argent, notamment pour Google, c'est à peu près 30 euros par an par utilisateur. Donc on peut se dire que voilà, 30 euros, ça ne représente pas non plus des sommes énormes, mais rien qu'en France, il y a 40 millions d'internautes. Donc on fait le calcul, ça fait beaucoup.
C'est un jackpot.
Ouais, et nous, on a proposé un système où on peut répartir cette valeur et la rediriger vers des associations.
Mais donc du coup, vous êtes quand même une entreprise, vous utilisez une partie de ces gouttes d'eau du coup ?
Ouais, tout à fait. Alors nous, on a un business model très particulier. On va reverser en fait 50%, donc la moitié de notre chiffre d'affaires, donc vraiment de tout ce qu'on touche, aux projets soutenus sur Lilo. Et ce sont les internautes qui vont choisir ces projets.
Des projets qui, du coup, financent des associations, tu disais.
C'est ça, tout à fait. C'est, quand je parle de projet, c'est à la fois, ça peut être des associations, donc je peux donner quelques exemples. Et puis, puisqu'en plus, on parle de la pollution sur le web, donc on a notamment des projets de compensation de stockage carbone. Donc, ça veut dire que ce sont des projets, en fait, qui vont financer des actions pour stocker du carbone, récupérer du carbone et le remettre par exemple dans le sol ou éviter d'autres émissions. Donc ça peut être par exemple de la reforestation, ça c'est facile à comprendre, on va planter des arbres, ce qui va stocker du carbone grâce aux arbres. Ça peut être aussi des projets pour des énergies alternatives. Donc par exemple dans les pays en voie de développement, ils utilisent énormément comme énergie de cuisson le bois. Donc en fait, ils vont aller couper donc déjà vers la déforestation et puis ensuite vers l'émission avec le fait de brûler le bois, l'émission de carbone. Et donc il y a des projets qui proposent par exemple de faire de la cuisson avec de l'énergie solaire. Donc ils vont proposer ce qui s'appelle des fours solaires dans les pays en voie de développement. Et donc ça c'est aussi un projet qui est soutenu sur l'îlot.
Ouais, voilà, moi, très concrètement, j'utilise l'îlot. Effectivement, je ne me casse pas la tête, il n'y a rien qui change chez moi. J'utilise le moteur de recherche, ça génère des petites gouttes. Au bout d'un moment, je me dis, tiens, j'en ai plein des petites gouttes. Et là, je vais sur une page qui est à part et on me dit, tiens, est-ce que tu veux donner tant de petites gouttes à cette association? On peut donner la totalité, mais on peut aussi décider de répartir un peu toutes nos petites gouttes pour soutenir toutes les associations pardon, qui nous plaisent. Donc forcément, il y a cet intérêt financier de solidarité, mais comme tu le disais aussi, il y a un intérêt écologique, puisqu'en fait, une recherche sur Internet, ça sollicite des serveurs, ça génère des émissions carbone, des dépenses énergétiques, et ça, vous arrivez à mesurer un peu la compensation de votre moteur de recherche ?
Ouais, tout à fait. Alors, on a, donc, comme tu disais, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que quand on fait une recherche, ça va faire tourner en fait, des machines très réelles, pas du tout virtuelles, donc ça, c'est ce qui s'appelle effectivement des serveurs. Donc, on a va y avoir en fait ce qu'on appelle des fermes de serveurs. Donc, ce sont des grands hangars avec des machines qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et donc, ça, c'est énormément consommateur d'énergie parce que ces machines-là, faut les refroidir principalement. C'est ça et puis il faut les alimenter en électricité.
Et puis elles tournent tout le temps.
Et elles tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ça qui est vraiment important. Et en plus, dans le moteur de recherche, la partie qui consomme énormément, c'est la partie algorithmique et d'indexation, parce qu'en fait, quand vous allez chercher des informations sur d'autres sites, ça va faire tourner non seulement les serveurs du moteur de recherche, mais en plus des serveurs des sites qui sont aspirés. Donc, par exemple, si vous allez sur récupérer les informations du Monde, ça va faire tourner aussi les serveurs du Monde. Enfin, voilà, donc ça consomme énormément. Et nous, on peut calculer nos émissions à nous, c'est pas forcément facile. Donc, il y a des études qui ont été faites, donc nous, on s'est basé un petit peu là-dessus. Après, par contre, pour nous calculer la compensation et notamment le stockage, puisqu'on va essayer en fait de... La compensation, c'est quand vous essayez d'être à l'équilibre, de compenser, de stocker de carbone autant que ce que vous dépensez. Nous, on va essayer de stocker, c'est-à-dire parce que les gens utilisent l'eau, on va stocker plus de carbone que ce qui est émis par les recherches. Et là, on a des partenariats avec des projets qui peuvent calculer effectivement, concrètement, combien de tonnes de CO2 sont stockées.
Et ça rentre dans le cadre de votre politique de financement de toutes ces associations. Tu as le chiffre peut-être de tout l'argent qui a été donné aux associations depuis la création de l'îlot ?
Ouais, tout à fait. C'est marrant que tu me poses la question parce qu'on a dépassé les 500 000 euros, donc le demi-million, il y a 3 jours.
Ah ouais ? Voilà. Génial, on fait la fête alors.
Et c'est ça.
500 000 euros qui ont été reversés voilà. En combien de temps ?
On s'est lancé il y a 2 ans et demi.
Ouais, donc ça va hyper vite.
Ça va très vite et en plus c'est exponentiel parce que plus il y a d'utilisateurs et plus on peut reverser d'argent.
Bah, génial, et là du coup j'espère que toutes les personnes qui sont en train de nous écouter vont profiter d'un peu de temps ensuite à la fin de l'émission pour aller installer l'îlot. Comme moteur de recherche, puisqu'en fait, il n'y a rien de très compliqué. En 30 secondes, tu peux nous expliquer comment ça marche peut-être ?
Ouais, tout à fait. C'est, comme tu disais, ça, en fait, ça ne change vraiment pas les habitudes. Ça, c'est quelque chose qui est hyper important. Nous, technologiquement, on va en fait louer des algorithmes, notamment de Bing, Yahoo et puis Google dans certains pays. Donc, en fait, on est sur la même pertinence. Et en termes de rapidité, aujourd'hui, on a fait pas mal amélioré le système. Donc, aujourd'hui, c'est 400 millisecondes. Donc, ça répond le temps d'un battement de cils, en fait. Donc, ouais. C'est vraiment très rapide. Et pour l'utiliser, ça se fait en 30 secondes, qu'on soit sur son ordinateur ou sur son smartphone. Et d'ailleurs, j'en profite puisqu'on vient de sortir une nouvelle appli sur Android qui va aussi bientôt sortir sur iPhone et qui est vraiment là beaucoup plus rapide sur une nouvelle techno. Donc, n'hésitez pas à la tester aussi.
Bah, génial, tu fais bien de le dire, puisqu'effectivement, Internet, on pense tout de suite à notre ordinateur, mais de plus en plus, c'est nos smartphones. Donc, ça fait du bien de savoir qu'il y a les moteurs de recherche qui existent aussi sur ces formules-là. Voilà, bah, écoute, merci Clément pour cette excellente entrée en matière. C'est facile à mettre en place et je le répète encore une fois, on ne change pas nos habitudes de navigation et ça, c'est important. Pour en savoir plus sur le moteur de recherche de Lilo, je vous invite à aller sur leur page lilo.org ou bien évidemment sur le groupe Facebook, ça commence par nous. Et tout de suite, on se fait une petite pause musicale.
Ça fait des mois que je n'ai plus de nouvelles d'elle. Signale-moi, petite blonde, en 60 et quelques. Elle a tatoué à l'anglaise et en souvenir de moi. I hate you sur les avant-bras. La première fois que j'ai croisé la petite Manon, ça paraît dingue aujourd'hui, j'oubliais toujours son nom. Elle me racontait ses déboires, elle avait plaqué son mec. Je recommandais à boire une clope au mec. Comme le haut de ton Manon, je perds la boule, je tourne en rond, je passe les saisons. Manon, bien à la cool, à reculons. Cacher ses idées noires sous un carré blond, platine derrière le bar, elle poussait du son. On chip tune Nintendo, 8 bits à mort, tous les kits de MD, on demande encore. Dans cette nuit de cache-cache sous les réverbères, planqué sous les flashs et moi sous les éclairs, je la traquais à l'aveugle et jusque dans les ruelles, me guider tout en bas de chez elle.
Ça commence par nous.
Vous êtes bien dans l'émission Ça commence par nous et après la pub, on retrouvera Clément Lebras de Lilo qui nous parlera de sa solution pour avoir une boîte mail plus respectueuse de la planète. À tout de suite.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Retour dans l'émission Ça commence par nous. Ici, vous changez le monde avec nous et forcément avec tous nos invités qui se bougent pour proposer des alternatives éco-responsables. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage et aujourd'hui, on vous donne toutes les clés pour naviguer écolo sur le web.
Ça commence par nous.
Et nous sommes toujours avec Clément Lebras de Lilo, qui déjà nous a parlé du moteur de recherche qui existe depuis plusieurs années. Mais je voulais moi aussi prendre le temps de parler de Lilo Mail, qui est assez récent, hein.
Ouais, tout à fait. Lilo Mail est une solution, donc une alternative à Gmail, qui est sortie en juillet dernier.
Mais du coup, tu parlais de Gmail. Moi, je pensais aussi à d'autres gros comme Yahoo, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des grosses différences avec ces boîtes mail que tout le monde connaît ?
Alors, dans le service, on peut envoyer et recevoir des mails. Donc là-dessus, on reste sur le même service de mail. Après, il y a quand même deux différences majeures par rapport à ces boîtes mail, on va dire, des géants américains. Les deux différences, la première, c'est qu'on ne va collecter ni ne lire aucune donnée. Donc ça, c'est quand même très important parce qu'en fait, sur les mails, le respect de la vie privée, les données qui sont présentes dans les emails, ce sont des données à la fois quantitatives et qualitatives, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de données. Et donc ça, c'est le fait de protéger la vie privée sur les mails. C'est sur Internet, moi, je pense que c'est vraiment l'aspect numéro un le plus important en termes de données pour l'email.
Parce que là, pour bien que ça soit clair pour tout le monde, hein, ce que tu es en train de dire, c'est que les grands géants américains qui nous offrent gratuitement des services de boîte mail, effectivement, ils lisent tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on lit, et puis en plus, ces données, ils les revendent.
Ah bah, c'est exactement leur business model, c'est-à-dire que ce ne sont pas des boîtes philanthropiques, donc c'est gratuit, mais si c'est gratuit, c'est vous le produit, entre guillemets. Donc ce qu'ils font, c'est qu'effectivement, ils vont collecter, lire les emails, donc collecter toute la donnée, et après, pour expliquer très rapidement le business model de ces boîtes, pour que les gens comprennent, vous allez en fait avoir un profil centralisé. Chez, par exemple, on peut parler chez Google, vous avez un profil Google, vous pouvez y aller d'ailleurs, hein, vous tapez voir ce que Google connaît de moi, enfin, vous pouvez vraiment accéder à ça, et en fait, Google va récupérer vos données mail, vos données de recherche, vos données, les vidéos que vous avez regardées sur YouTube, les données du Drive, etc.
C'est et en fait, déplacements de map aussi, la totale. Hein.
Les déplacements de map, etc. Et en fait, il agrège tout ça dans un profil qui fait un profil publicitaire, donc il va affiner toutes ces données avec aujourd'hui votre âge, votre sexe, ça c'est les données de base, mais après ce que vous aimez, vos centres d'intérêt, etc. Et ensuite, il va pouvoir vous redistribuer la publicité sur ces différentes plateformes.
Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir parlé avec un ami ou à avoir fait une recherche pour partir en Birmanie, et puis tout de suite, après, on a plein d'offres de pub hein, qui nous envoient là-bas directement.
Ouais, exactement, ça c'est un exemple. Ouais.
Ouais. Et génial. Donc du coup, toi, tu disais que vous respectez la vie privée des utilisateurs.
Ouais, exactement. Sur l'e mail, effectivement, nous, on va pas lire les données, on va pas les revendre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi, c'est que cet email, donc c'est une solution plus écologique qu'un email classique. Alors là, pareil, pour expliquer très rapidement, l'email, c'est un assez gros consommateur d'énergie. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir dans vos emails beaucoup de données stockées. Donc, pareil, on revient sur les serveurs. C'est stocké sur des serveurs qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
En double,
donc,
en plus.
Double, exactement. Donc, il faut alimenter en énergie et qu'il faut refroidir. Donc ça consomme beaucoup. Et on a tous en tête la pièce jointe de la photo de mariage de l'an dernier qu'on n'a jamais nettoyée, ce genre de choses. Et donc ça prend énormément de place et donc d'énergie. Et nous, ce qu'on propose avec Lilo, c'est quand vous allez envoyer un mail qui dépasse une certaine taille, puisqu'en fait, c'est vraiment là, pour le coup, la taille du mail qui joue, donc avec des grosses pièces jointes, on va vous proposer de le mettre automatiquement, de le stocker en fait de manière temporaire, donc pendant 7 jours, et quand le mail sera reçu par le destinataire, il va avoir un petit message qui lui dit vous avez 7 jours pour télécharger la pièce jointe, et donc le stocker sur votre ordinateur. Après 7 jours, la pièce jointe sera supprimée, donc du coup elle ne consommera plus d'énergie, et la pièce jointe sera bien arrivée dans l'ordinateur du destinataire.
Ou comment réussir à mélanger tous les bienfaits d'un email avec un peu la technologie de WeTransfer, si je dis pas de bêtises, où là on peut envoyer des données par un site web qui les supprime au bout de 7 jours aussi. Hein.
C'est exactement ça. En fait, on a intégré notre propre WeTransfer. Donc, ça s'appelle pas WeTransfer puisque c'est notre technologie, mais c'est exactement le même principe. Effectivement, on l'intègre de manière automatique. Et puis après, on a rajouté un petit indicateur ABCDEF comme ce que vous avez sur vos frigos pour avoir le petit indicateur de votre boîte mail. Est-ce qu'elle est écologique ou pas du tout?
Voilà. Mais génial, parce que tu vois, ce que tu dis, c'est veut dire qu'on utilise les codes classiques, donc les gens peuvent comprendre tout de suite pourquoi ça marche, pourquoi ça pollue et à quel niveau. Et puis en plus, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Tout est automatisé, donc même pour les personnes qui sont un peu tête en l'air, qui n'ont pas envie de rentrer dans les réglages complexes de préférence et tout ça, en fait, ça se fait automatiquement.
Exactement.
Bon, bah génial. Merci beaucoup d'avoir présenté aussi cette option, Clément. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Et en attendant, vous pouvez en savoir plus sur maillilo.org ou sur le groupe Facebook. Ça commence par nous. Après la pause musicale, nous, on va retrouver Hélène qui nous expliquera comment être zéro déchet, même dans notre vie virtuelle. Allez, à tout de suite.
Sur mon lit d'hôpital, tu disais promis, on se fait pas de mal, promis, je monte la garde. Pourtant, c'est l'escalade, les sentiers en zigzag. T'étais qu'une passade digitale et j'en retiendrai que dalle, je sais. Thank you. retiens que t'aimes. Je t'aime le grand total, dernière du hit parade. Tu sais, si je suis bancal, c'est juste que j'ai si mal. Et rouge est le pétale sur mon lit d'hôpital. Tu disais, tu disais.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Et vous êtes bien de retour sur Ça commence par nous. Aujourd'hui, on parle de la pollution cachée du web. Et on est avec Hélène. Moi, la question que j'ai pour toi, c'est comment on fait pour être zéro déchet en surfant sur Internet? Pas évident de s'y retrouver hein, quand on parle de quelque chose qui se passe dans le cloud, non?
Eh oui, le zéro waste sur son ordinateur, c'est vrai que c'est compliqué hein, parce qu'il y a beaucoup d'externalités négatives. Comme chaque recherche Google génère environ 6 grammes de CO2. Alors, nos invités nous ont déjà fait part de pas mal d'alternatives et je pourrais continuer pendant des heures, c'est vrai. Mais focalisons-nous sur ce qui s'échange par dizaines de millions chaque seconde, les mails. Eh oui, en une heure, pas moins de 10 milliards de mails sont envoyés dans le monde, ce qui est équivalent à 50 gigawatts par heure. Alors ça vous dit peut-être rien comme ça, mais c'est la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant une heure. Ou alors 4000 allers-retours Paris-New York en avion. Et oui, de quoi sérieusement plomber son bilan carbone. Alors un mail parcourt en moyenne 15 000 km, ce qui fait que les mails que tu envoies à Mère Grand, qui vit pourtant à deux rues de chez toi, font probablement un petit détour par le soleil des serveurs de Californie avant. Donc tant qu'à faire, autant te déplacer et aller voir directement les personnes en face. Allez, un dernier petit chiffre pour la route. Saviez-vous que de garder 30 mails inutiles dans sa boîte représente en énergie consommée l'équivalent de 24 heures d'une ampoule allumée? Seulement 30 mails inutiles. Alors, vous pouvez commencer dès ce soir à supprimer les mails qu'il vous reste sauvegardés dans votre ordinateur. Alors du coup, comment on fait pour respecter ces valeurs zéro waste sur la toile? Avec une boîte mail zéro inbox, mais est-ce que c'est vraiment possible? Eh ben oui, pourquoi pas. Même si ça peut sembler anecdotique, limiter le stockage de ces mails est un super bon plan pour améliorer son quotidien. Alors, premièrement, c'est moins de charge mentale. Et oui, vous avez oublié de répondre à un tel, vous recherchez ce mail, vous en avez encore 53 qui sont non lus, et cette pub, c'est quoi? Oui, oui, on sait ce qu'on peut recevoir comme spam dans notre boîte mail. Donc le fait d'avoir zéro inbox va vraiment vous apporter beaucoup plus de zen dans votre travail au quotidien. Plus d'efficacité donc. Et oui, en se définissant un temps pour le faire un peu tous les jours, on traite ce qui est important. On classe le reste et on garde le contrôle. On prend le temps de déconnecter. C'est aussi plus d'opportunités, parce qu'une fois défini ce qui nous sert vraiment, on y voit beaucoup plus clair. Et on peut lire enfin le mail super important qu'on n'avait pas encore ouvert depuis plusieurs mois. Et donc finalement, c'est plus de zen, comme après un grand ménage en fait. Ça fait du bien, c'est propre, c'est rangé, c'est net. Alors pour en bénéficier, on commence par ces 6 bonnes pratiques. Premièrement, raccourcis tes mails. Pas besoin d'en dire trop, mais un objet clair et utile qui permettra à ton destinataire de le traiter, classer rapidement et qui l'encouragera peut-être à faire de même pour toi la prochaine fois. Ensuite, 2. En répondant, supprime le reste de vos échanges si cela n'est pas capital. Ça permettra d'autant d'alléger ce mail. En 3, évite les pièces jointes autant que possible. Tu peux utiliser, si c'est vraiment nécessaire, les services de cloud, type Google Drive ou équivalent, comme on peut le trouver sur Numanity. Et à réception, stocke les fichiers sur ton ordinateur pour supprimer le mail. En 4, pense à supprimer les mails que tu as envoyés. Oui, c'est cela qu'on oublie le plus souvent. Et finalement, en 5, trie les mails pour atteindre le zéro inbox en fin de journée. CleanFox, d'ailleurs, a pas mal d'astuces à ce niveau-là. Et ça peut être une chouette manière en plus de terminer ta journée de travail, un petit peu comme un rituel de fin, d'être content d'avoir atteint le zéro inbox. En fait, pour résumer tout ça, sur le web comme partout, les 5 R du zéro waste s'appliquent. D'abord, refuser les mails et recherches inutiles, les spams. Puis enfin, réduire ce qu'on a déjà. Puis réutiliser, donc via un drive commun. Recycler en supprimant ces mails et revendiquer en utilisant des ressources responsables comme Numanity, Lilo ou Ecosia.
Et pour continuer à creuser le sujet, on accueille Louis Balladur de la plateforme CleanFox. Bonjour Louis.
Bonjour Julien.
Alors CleanFox, qu'est-ce que c'est?
Alors CleanFox, c'est une application mobile et web qui a à peine un an et qui en fait permet de nettoyer sa boîte mail tout en réduisant son empreinte carbone. Donc en fait, le principe est simple, vous connectez à CleanFox. CleanFox va détecter toutes vos newsletters, il va les classer, CleanFox va vous permettre ensuite de vous désabonner et de supprimer toutes ces newsletters en un clic. Et à la fin du processus, on vous fournit un bilan écologique de ce nettoyage. Alors quel est le lien entre nettoyage de boîte mail et réduction de l'empreinte carbone d'un internaute? En fait, le lien est assez direct, puisque comme on l'a dit précédemment, chaque email stocké pollue. Nous, d'après nos calculs, un email en moyenne, c'est 10 grammes de CO2 par an. Donc, en gros, en fait, chaque utilisateur, en supprimant ses emails, permet de réduire son empreinte carbone. Donc, on a des chiffres, nous, sur CleanFox, un utilisateur supprime en moyenne 500 mails. Donc, par an, ça représente une réduction de leur empreinte carbone de 5 kg de CO2. Donc déjà, à l'échelle de l'utilisateur, c'est déjà pas mal. Mais en fait, si on multiplie ça à l'échelle déjà de notre nombre d'utilisateurs, on a plus d'un million d'utilisateurs. Donc ça fait plus de 5000 tonnes de CO2 évitées pour 500 millions d'emails supprimés. Et puis après, si on l'applique à l'échelle du nombre d'internautes et du nombre de détenteurs d'adresses email, là, l'impact en termes de réduction de l'empreinte carbone est vraiment gigantesque.
Considérable, hein, ouais. C'est considérable, et d'autant que, en fait, toutes ces newsletters dont on parle, on n'en lit que 10%, non?
Ouais, alors, il y a différents chiffres, mais c'est entre 65 et 90% de tous les emails reçus ne sont jamais ouverts.
Donc, pourtant, ils sont ouverts, ils ne sont pas ouverts, mais ils polluent quand même.
Ils polluent quand même parce que personne ne pense à les supprimer ou... Et tant qu'il reste dans votre boîte mail, il reste sur les serveurs et il continue à polluer.
Et des serveurs, je le redis, mais pour que ce soit bien clair, on fait un peu du matraquage aujourd'hui. C'est des serveurs qui continuent à tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que du coup, l'information, elle doit être disponible tout le temps. Moi, Louis, pour toi, j'ai une question. C'est concrètement, là, j'ai envie de nettoyer ma boîte mail et de me désabonner de toutes ces newsletters. Comment je fais avec CleanFox?
Alors, c'est très simple. Tu te rends sur le site de CleanFox, sur l'appli mobile qui est disponible sur iOS et Android. Tu connectes ta boîte mail, tu vas attendre quelques secondes, le temps que CleanFox en fait détecte toutes tes newsletters. Ensuite, CleanFox va te les classer. Et là, tu vas pouvoir en fait choisir quelle newsletter tu veux garder. Est-ce que tu veux t'en désabonner? Est-ce que tu veux supprimer et désabonner les mails? Donc, tu vas faire ça pour chaque expéditeur. À la fin du processus, nous, on va te fournir un petit bilan écologique qui va te dire de combien de newsletters tu t'es désabonné, combien d'emails tu as supprimé, et en fait, le bilan en termes de réduction d'empreintes carbone que ça représente.
Ouais, donc si je dis pas de bêtises, vous avez un logiciel intelligent qui va aller scanner un peu nos ouais. boîtes mail, qui va voir toutes les newsletters et les détacher des mails un peu plus classiques, et qui va nous proposer non seulement de les supprimer, mais en plus de les supprimer à l'infini, puisqu'en fait ça nous désinscrit aussi de la newsletter.
Ouais. Voilà, c'est ça. Alors en fait, il y a deux options, soit on supprime juste les emails, soit on supprime, on se désabonne.
Ouais, ça, en plus, se désabonner, on sait tous que c'est un véritable cauchemar. À chaque fois, c'est écrit en petit, puis ouais. on le fait, puis en fait, ça prend pas en compte le désabonnement. Donc là, c'est automatique.
Ouais, c'est automatique. Donc une fois que vous appuyez sur le bouton désabonner, vous verrez plus jamais de newsletter de cet expéditeur dont vous avez jamais réussi à vous désinscrire.
Et moi, du coup, ça me fait me poser deux questions. La première, c'est quand même, on donne accès à CleanFox. Et qui, du coup, à la main, sur notre boîte mail, s'il y a une erreur qui est faite, que le logiciel se trompe, est-ce qu'on peut avoir des mails perso qui sont supprimés aussi?
Alors, il y a deux choses. Déjà, en fait, CleanFox détecte les newsletters et pas les mails perso. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails techniques, mais ce sont deux types d'emails différents, donc on ne détecte pas les mails perso. Et même une newsletter, dans le cas où vous avez effacé une newsletter par erreur, rien n'est irréversible, vous pouvez en fait inverser l'action sur CleanFox.
Ah oui, ou sinon directement peut-être dans notre corbeille, non?
Dans votre corbeille, mais ça prend un peu plus de temps.
Ok, ça marche. Et la deuxième, eh ben, on parlait tout à l'heure du contrôle de nos données, on donne l'accès comme ça à un autre logiciel. Qu'est-ce que vous en faites de nos données? Est-ce que vous avez une politique de confidentialité particulière peut-être?
Oui, alors on a une politique de confidentialité assez particulière, qui est assez novatrice, en avance sur le sujet. Donc en fait, notre business model est assez original. D'un côté, on offre un service qui est gratuit à l'utilisateur, qui permet de gagner beaucoup de temps et de réduire son empreinte carbone. Et de l'autre côté, en fait, nous, pour se financer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va produire des statistiques complètement anonymisées sur le e-commerce. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas lire les emails, on va juste extraire des infos d'emails commerciaux. Et après, anonymiser ces informations, les agréger et ça va nous permettre en fait après de réaliser des statistiques à destination des acteurs du e-commerce.
Quel type d'informations par exemple ?
Par exemple, ça peut être le chiffre d'affaires d'un grand acteur du e-commerce, le panier moyen. Donc des informations assez stratégiques pour les acteurs du e-commerce qui ne disposent pas de ces infos. Mais ce qui est important, c'est que ces infos ne sont jamais individualisantes, c'est à l'échelle globale, macro. Ça ne permettra jamais d'individualiser un utilisateur de CleanFox, ni d'aller le retargeter, d'aller lui servir de la pub.
Oui, donc on ne saura pas, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, que moi, j'ai acheté un billet pour aller en Birmanie et qu'en plus, du coup, je suis à la recherche d'hôtels et tout ça.
Exactement. Vraiment, c'est notre priorité numéro un, c'est la vie privée de nos utilisateurs. On ne vend aucune donnée personnelle, on n'en transmet aucun tiers. En fait, on essaie de trouver une façon de monétiser notre service un peu alternative. Donc, dans notre service, l'utilisateur n'est pas un produit parce qu'il ne va pas se faire retargeter, on ne va pas vendre toutes ses données. Mais à la fois, nous, c'est un service qui est viable, un business model qui est viable parce qu'on peut gagner de l'argent en produisant des statistiques anonymisées.
Ok, du coup, ça aide les grands vendeurs, eux, à affiner un peu leur stratégie de vente.
Voilà, en fait, à mieux vendre.
Ok, ça marche. Bon, bah génial. Merci beaucoup, Louis. C'est très concret, là, du coup. Tout de suite, vous pourrez vous désabonner de toutes ces newsletters récalcitrantes. Et pour le faire, vous avez juste à vous rendre sur le site cleanfox.io ou sur le groupe Facebook. Vous savez, ça commence par nous. On vous donnera toutes les informations, mais vous pouvez d'ores et déjà y adhérer. Merci, Louis. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief. Et du coup, là, nous sommes tout de suite avec Julien Tournier de Sonora Labs, puisque l'idée, c'est de continuer à vous aider à y voir plus clair en ce qui concerne la protection du web. Et du coup, cette fois, on part en direction d'Aix-en-Provence. On va vous présenter Lola. Lola, c'est une solution de cloud de la maison créée par Sonora Labs. Bonjour, Julien.
Bonjour.
Alors, du coup, je te disais que Lola, c'était une solution de cloud hein, à la maison. J'ai pas dit de bêtises, c'est ça ?
Non, t'as pas dit de bêtises, c'est ça, c'est un cloud à domicile.
Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ?
Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Alors, Lola, aujourd'hui, c'est un produit que nous avons démarré en pré-commercialisation sur une plateforme de crowdfunding au mois de juin. On a déjà une centaine de backers qui ont fait confiance alors même que le produit n'est pas encore sorti. On espère toujours pouvoir le sortir pour qu'il soit au pied du sapin de Noël. Donc Lola, c'est une box avec un design original, c'est un cube en bois, un design assez scandinave. Et le principe est le suivant, vous connectez en fait Lola à votre box internet et dans un premier temps, vous pouvez l'utiliser pour backupper toutes vos données. Donc aujourd'hui, de plus en plus de monde finalement produit des contenus et la question du backup de ces données est de plus en plus importante. Donc on utilise des solutions cloud. Type Google Drive ou autre, et j'entendais donc chez l'intervenant précédent que la question de la privacy, du respect des données personnelles des utilisateurs était devenue primordiale, en tout cas de plus en plus importante aux yeux des consommateurs. Mais avec Lola, vos données restent chez vous, elles restent sur votre disque dur, c'est un cloud hébergé à la maison. Alors, on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a déjà des sociétés qui proposent des choses comme ça. Mais ça n'est qu'un des aspects, finalement, de ce qu'on propose avec Lola. Le deuxième aspect, c'est que vous avez, du coup, accès à vos données partout, avec un smartphone ou avec une web app. Mais vous pouvez également brancher Lola si vous avez des contenus multimédia sur vos écrans à la maison ou sur votre enceinte connectée Bluetooth. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir exactement comme avec un Media Center, accéder à ces contenus. Et la petite spécificité, c'est que vous savez que c'est la mode un petit peu des assistants vocaux avec Alexa d'Amazon ou Google. Vous allez pouvoir, du coup, commander votre Lola, demander à Lola d'afficher, d'allumer votre télévision, d'afficher un album photo, d'afficher un film, et Lola vous répond au doigt et à l'œil. Donc ça, c'est pour vos usages personnel. Maintenant, on a quand même une ambition beaucoup plus importante. Donc bien évidemment, toutes les données hébergées sur votre Lola sont protégées et à l'abri du Big Data. Mais notre ambition, c'est de réinventer Internet en utilisant le peer-to-peer et en créant réellement une infrastructure collaborative.
Voilà, Julien, du coup, juste pour que ça soit clair pour tous nos auditeurs, hein, parce qu'on n'a pas que des spécialistes de la technologie qui sont avec nous. Lola, c'est une boîte, c'est un gros disque dur qui est connecté à Internet et qui permet, du coup, d'éviter d'envoyer toutes ces données, ces informations, les photos qu'on stocke d'habitude en ligne pour les partager à ses grands-parents. Là, cette fois, tout est stocké directement chez nous. Donc, ça veut dire qu'on a un contrôle, hein, on a la main sur les données. Et donc, du coup, forcément, au niveau de la protection de ces données, on est sur une qualité bien supérieure. Et aussi, tu le disais, au niveau de l'environnement, puisque là, on n'est pas dans des énormes baies avec les serveurs gigantesques qui sont du coup, qui doivent être refroidis par des climatisations. Donc là, il y a deux avantages, c'est ça?
Alors, bien sûr, alors, le côté privacy, c'est très important de le noter. Aujourd'hui, quand tu mets tes photos, notamment les utilisateurs Android, qui stockent automatiquement leurs photos sur les serveurs de Google, il faut savoir que Google analyse, envoie des algorithmes de pattern recognition, de facial recognition, et sont capables de, sur tes photos perso, de savoir avec qui tu étais. Ils analysent les métadonnées pour savoir où tu étais au moment où tu les as prises. Et en fait, ça leur permet d'alimenter, c'était un petit peu le débat que vous aviez avec Clint Fox précédemment, ça leur permet de retracer le profil de personne que tu es. Est-ce que tu voyages en Birmanie? Ça veut dire que tu as quand même un pouvoir d'achat, tu peux voyager. Est-ce que tu as un réseau social étendu? Quel type de réseau social? Toutes ces données sont conservées aujourd'hui par les géants du web, par les GAFAM, qui en font une exploitation.
Donc, ouais, ça fait un peu peur, hein, tout ce que tu dis là, mais en plus, ça permet aussi toutes ces personnes qui partagent leurs photos et qui sont pas très au fait des préférences de partage et de vie privée, d'avoir toutes nos photos qui se retrouvent avec à un portée de clic et d'un moteur de recherche en plus.
Est-ce que tu lis la totalité des conditions générales d'utilisation quand tu acceptes de souscrire à un service? La plupart des gens ne le font pas.
Non, jamais. Et puis en plus, il y a quelqu'un qui s'y est amusé et ça prend des semaines à faire en fait. Hein.
En contrepartie, tu reçois quand même un service gratuit. C'est-à-dire que derrière, Google paye quand même pour le développement du soft, du logiciel, et Google paye quand même pour l'infrastructure. Donc le débat, je pense, c'est un débat qu'il faut poser au niveau sociétal. Est-ce que les gens sont prêts à abandonner un petit peu de leur vie privée en contrepartie de quoi? Effectivement, Google peut quand même t'offrir des services. Ils peuvent te dire, parce qu'ils ont lu tes mails et qu'ils ont vu que tu avais un billet d'avion tel jour à telle date, le rajouter automatiquement dans ton calendrier et t'envoyer une alerte pour te dire « Attention, dépêche-toi Julien, tu vas rater ton avion si tu pars maintenant. »
Oui, ils le font déjà en fait. Hein. Mais moi, ce que je note un peu dans ce que tu es en train de dire, c'est que là, vous, avec Lola, ce que vous voulez faire, c'est même complètement modifier la manière de partager les données, quoi.
Alors voilà, il y avait un sujet sur la privacy qui pour moi est important, et tu l'as dit tout à l'heure, il y a un sujet aussi environnemental. Là vraiment, c'est là qu'on essaie de focaliser nos efforts. Aujourd'hui, Internet tout entier est stocké dans des usines de l'information. Le grand public n'a pas forcément conscience de ça, parce que depuis le début, on vend la révolution digitale, la révolution numérique, comme quelque chose de totalement dématérialisé. Or, ça n'est bien sûr pas le cas. Les emails, évidemment, notamment les emails non sollicités, sont une source de pollution. Mais si tu prends en compte ce qu'il y a dans les data centers aujourd'hui et ce qui fait le trafic majoritaire aujourd'hui, alors petite précision, au niveau des data centers, on a aujourd'hui en France environ 150 data centers qui consomment, qui sont responsables en termes de consommation d'énergie de pas loin de 15% de la consommation d'électricité en France.
Ouais, c'est énorme.
Dans le monde entier, la totalité des data centers, donc on a à peu près 100 millions de serveurs, hein. Un serveur, c'est un ordinateur sans souris, sans clavier, sans écran. C'est en général, on appelle ça des pizza box. Un serveur, les 100 millions de serveurs dans les 4000 plus gros data centers du monde consomment autant d'électricité qu'un pays comme le Royaume-Uni. Et ils sont à l'origine d'autant d'émissions de CO2 que la totalité du trafic aérien mondial.
Ouais, c'est ce que je disais au tout début de l'émission, hein. C'est vraiment un enjeu écologique là, et en plus c'est exponentiel parce que ça se multiplie à vitesse grand V. Moi, la dernière question que j'ai pour toi quand même, Julien, puisque là on a bien compris que du coup, avec Lola, on luttait sur ces deux axes, et puis du coup on stocke chez nous notre serveur, donc on n'a pas besoin de le refroidir, c'est où est-ce qu'on peut commander Lola?
Alors Lola, aujourd'hui, tu peux la commander sur lola.cloud. Je vais me permettre de rajouter un dernier point. C'est qu'on est vraiment, nous, à l'articulation de trois sujets, la privacy, le green IT et l'économie collaborative. Et notre modèle, c'est que chaque personne avec Lola va pouvoir partager un morceau de son disque dur, s'il le souhaite, pour bâtir un data center décentralisé, un data center plus green, un data center qui consomme moins d'énergie, avec beaucoup de points de présence, avec un maillage important. Et notre point, c'est qu'on va pouvoir du coup monétiser cet espace. En fait, en gros, on vous loue un petit bout de votre disque dur, évidemment totalement sécurisé. Et cet espace qu'on vous loue tout en respectant votre vie privée, ça va vous permettre de faire des économies chaque mois, tous les possesseurs de Lola, sur votre facture Internet. On va lancer ce programme de partage de ressources au mois de mars. Et vous pouvez d'ores et déjà commander les Lola qui vont être livrés à la fin d'année, si tout va bien, sur notre site Internet, lola.cloud. Et à partir de vendredi, on fait une offre spéciale pour le Black Friday pour une version un petit peu premium de Lola qui fait 2 téras de stockage, là où la version standard fait 1 téra.
Ah, génial, merci beaucoup Julien, je te remercie pour ton intervention. C'est quand même assez intéressant de voir qu'on peut redonner le pouvoir de partager les données aux utilisateurs directement. Comme tu le disais, on peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet lola.cloud ou sur le groupe Facebook de Ça commence par nous. Allez, on se fait tout de suite un petit break musical et on se retrouve juste après avec Mélanie qui nous partagera son bon plan de OneArt. Merci encore Julien et à tout à l'heure.
C'est bien comment ça commence, ça. D'abord il fait la gueule pendant des heures, des heures, des heures. Donc moi je lui fais la gueule pendant des heures. Faut qu'on apprenne à s'aimer autrement, elle fout la mort. Elle se fout de savoir qui a raison ou a tort. Quand je dis que je suis fou d'elle, elle me répond oui alors. Faut tes doutes à la poubelle, Miami à mort. Prise de tête pendant des heures. Des heures, oh des heures, prise de tête pendant des heures. J'ai beau lutter mais ça recommence. C'est donnant, donnant, c'est donnant, donnant. Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Ici c'est donnant, donnant, ici c'est donnant, donnant. Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. C'est plus compliqué qu'avant. Je veux m'expliquer avec elle, c'est jamais le bon moment. On est plus ennemis qu'amants, c'est ce qu'on se dit fréquemment. Je veux m'exiler avec elle, devenir son médicament. Soulager pendant des heures, isolé comme des naufragés pendant des heures. C'est donnant, donnant, c'est donnant, donnant. Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. Ici donnant, donnant, ici donnant, donnant. Mon amour faut qu'on apprenne à s'aimer autrement. S'aimer autrement. S'aimer autrement. S'aimer autrement. S'aimer autrement. S'aimer autrement. S'aimer autrement.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Allez, on est toujours dans l'émission Ça commence par nous. C'est tous les samedis de 13h à 14h sur Rage et je laisse le micro à Mélanie de OneArt pour nous présenter son bon plan. Salut Mélanie.
À tous, quel plaisir de vous retrouver dans Ça commence par nous. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un lieu que vous connaissez sans doute, la piscine de la Butte-aux-Cailles. Ça vous dit quelque chose ? Enfin, vous allez me dire quel est le rapport exactement avec le fait de naviguer écolo sur le web. Ben, il y en a un.
Ben ouais, je vais te dire quel est le rapport avec le fait de naviguer écolo sur le web.
Alors il faut savoir que c'est une des plus anciennes piscines de Paris. Elle est située dans le 13e arrondissement, dans un bâtiment qui a conservé tout son charme des années 20, dans un style art nouveau. Et la piscine de la Butte-aux-Cailles, eh bien, elle est chauffée par un data center. On l'a vu tout à l'heure avec nos invités. Un data center, c'est un endroit qui rassemble tout plein de données informatiques, des serveurs entre autres. Donc la particularité pardon, de celui-ci, c'est qu'il est green et éco-responsable puisqu'il crée une chaleur non polluante.
Ouais, une chaleur non polluante. C'est un peu complexe tout ça, tu peux nous en dire un peu plus s'il te plaît ?
Alors, c'est une société grenobloise qui s'appelle Simergy qui est à l'origine de cette brillantissime idée. Ils ont inventé une chaudière numérique pour créer une énergie renouvelable. Ils se sont rendus compte en fait que d'une part, les centres de stockage étaient source de chaleur et que d'autre part, nous, les hommes, on en avait besoin de la chaleur tout au long de l'année. Donc ils se sont dit, on va mettre en place une chaudière numérique donc, qui est conçue en acier où justement baignent ces serveurs. Et cette chaudière, elle est ensuite installée dans une chaufferie de 7 mètres carrés. Donc ça marche un peu comme ça, quoi.
Et donc pour la piscine de la Butte aux Cailles, ça marche comment exactement ?
Alors la piscine de la Butte aux Cailles, elle est équipée de 6 chaudières numériques, ce qui représente environ 150 serveurs. Et ces chaudières, elles sont installées dans le sous-sol de la piscine, dans l'ancienne chaufferie qui, il y a des années, était à charbon.
Ah ouais, quand même.
Et ouais, c'est assez énorme. Et donc, vous avez sur ces serveurs des données qui sont stockées par des sociétés françaises, américaines. Et c'est cette chaleur, justement, qui est créée, qui va permettre de chauffer la piscine de la Butte aux Cailles. Et ils fournissent, entre autres, 250 MWh par an. Et le data center de Steamergy permet justement de faire une économie de 50 tonnes de CO2 par an, ce qui n'est pas mal du tout.
Et donc, on a 100% de la piscine qui est chauffée grâce à ce système ?
Pas tout à fait. En vrai, 70% de la piscine est principalement chauffée par le chauffage urbain de la ville de Paris, le CPCU. Et les chaudières numériques de Steamergy viennent compléter les 30% restants en chauffant les bassins de la piscine. Cette initiative, en fait, elle partait de la mairie de Paris pour développer un plan énergie renouvelable pour la piscine. Et donc, depuis mai 2017, ouais, c'est tout récent, en fait, Steamergy fournit une énergie renouvelable grâce à ses serveurs.
Et est-ce que cette formule, on la retrouve dans d'autres formats ?
Steamergy n'intervient pas directement chez les particuliers, donc ça, il faut le noter, mais plutôt dans tous les types de bâtiments qui nécessitent de l'eau chaude sanitaire. Donc, par exemple, dans les douches, les lavabos. Et l'entreprise s'adresse, par exemple, à des bailleurs sociaux, des constructeurs immobiliers, des collectivités, des centres éco-sportifs ou encore des crèches, bref. Tous ceux qui souhaitent changer leur mode de production. Et il faut aussi savoir que Steamergy fournit jusqu'à 60% des besoins en eau chaude sanitaire d'un bâtiment, du moment qu'il existe déjà de l'eau chaude centralisée. Et leur dispositif bas carbone, permet également aux habitants de réduire considérablement leur facture annuelle d'énergie. C'est top, non ?
Ouais, carrément. Et qu'est-ce qu'ils en pensent d'ailleurs, ces habitués de la piscine ?
Alors, on a réussi à avoir quelques habitués au téléphone qui nous ont fait des retours plutôt positifs, qui sont vraiment habitués et qui vont souvent nager à la piscine. Et pour certains, ils sont au courant que la piscine est préchauffée par des serveurs. Et ils s'en réjouissent, en fait. Ils sont vraiment contents de cette initiative qui fait un peu bouger les lignes. Et pour finir, je peux vous dire que vous pouvez retrouver cette adresse sur notre application One Earth Spot, qui vous donne des adresses responsables près de chez vous.
Merci Mélanie, on pourra effectivement retrouver toutes ces informations sur One Heart Spot ou sur le groupe Facebook de Ça commence par nous et on te retrouve tout à l'heure pour le débrief.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par moi.
Ça commence par nous.
Vous êtes bien avec nous dans l'émission Ça commence par nous. Aujourd'hui, on vous a présenté plein d'actions concrètes pour réduire son empreinte écologique sur le web et on profite encore d'avoir nos invités avec nous pendant quelques minutes pour pousser encore plus loin le sujet. On a parlé de plein de solutions et comme je le disais au début de l'émission, on accède maintenant à Internet depuis son ordinateur, mais aussi de plus en plus depuis son smartphone. Et moi, ma question, c'était tout ce dont vous parliez là, il y a tout qui est aussi disponible depuis son smartphone, hein, c'est ça ? Louis, par exemple ?
Alors oui, l'intérêt, c'est CleanFox nous a développé une application iOS Android, parce qu'en fait, maintenant, la majorité du trafic sur Internet vient des téléphones.
Et la majorité des gens, vous le voyez, vous, ils téléchargent plutôt l'app ou ils l'utilisent sur Internet ?
Alors, les apps sont sorties il y a une semaine, donc c'est encore un peu tôt pour voir. Mais en revanche, ce qu'on voit, c'est que la majorité de notre trafic vient de la version web mobile de CleanFox.
Et j'avais une autre question aussi. J'ai vu que Lilo, on pouvait soutenir des associations en faisant des recherches, mais aussi en faisant des achats.
Ouais, tout à fait. On a des partenariats avec des sites marchands qui proposent en fait de gagner des gouttes d'eau par ces achats. Donc, quand vous allez à Lilo en fait et que vous allez sur le site, vous allez avoir un petit message qui vous propose d'activer l'option. Et quand vous avez fait un achat, vous gagnez des gouttes d'eau et un pourcentage de votre achat est reversé sous forme de gouttes donc à l'association que vous choisissez.
Et on en revient tout le temps hein, à cette idée de bon bah on consomme, on laisse une trace sur Internet. Comment vous vous arrivez à manager ça et comment vous vous positionnez, parce que comme tu le disais tout à l'heure Clément, ça va être un gros enjeu de nos 10 prochaines années là.
Ouais, exactement. C'est vrai que la consommation Internet, en plus, va de plus en plus changer, puisque tu parlais des smartphones, mais et puis tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, il y a les objets connectés aussi. Donc, on va avoir de plus en plus d'objets qui vont faire partie de notre quotidien, qui vont être connectés. Et donc, par rapport à ça, la vie privée, notamment, est hyper importante. Il faut vraiment se poser les bonnes questions, effectivement, quand on utilise un produit, de savoir bah, finalement quelle est sa finalité. Moi, j'ai un service, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, c'est pas forcément facile. Parce qu'on n'a pas forcément le temps de regarder à chaque fois qu'on fait quelque chose, de regarder toutes les conséquences, évidemment. Mais quand ça touche à des choses assez intimes, comme les objets connectés, c'est la santé, par exemple. Ça pose vraiment énormément de questions sur la vie privée. Est-ce que vous voulez que vos données de santé soient revendues à des banques, à des assurances ? C'est pas forcément évident.
Et bon, moi, du coup, j'avais une question. Comment justement contrôler toutes ces données ? Comment faire en sorte que nos données soient protégées avec tout ce qui se passe, comme tu disais, tous ces objets connectés, comment les contrôler ? Parce que c'est un peu la crainte de tous les utilisateurs aujourd'hui. C'est génial, toutes ces initiatives, CleanFox, Lilo, mais en tant qu'utilisateur, on se dit, tiens, où vont mes données ? C'est un peu inquiétant. Comment faire, en fait ?
Pour contrôler ces données, la première chose, c'est d'utiliser des services qui vont justement vous proposer de pas les collecter. Donc, il y a aujourd'hui, sur les principaux services, moteurs de recherche, email, il y a des services qui vous proposent de pas collecter les données. Lilo en fait partie, il y en a d'autres. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et après, c'est vrai que nous, par exemple, aujourd'hui, on essaie de développer un module de navigateur, voire un navigateur complet qui va vous permettre aussi de vous désinscrire, par exemple, automatiquement des régies publicitaires. Donc, par exemple, vous savez, Google, vous pouvez vous désinscrire manuellement de la régie publicitaire de Google. Donc, vous pouvez dire, je refuse que Google, maintenant, me fasse du retargeting publicitaire.
Ouais, mais moi, je l'ai fait. J'ai, comme tu le disais tout à l'heure, supprimé toutes les données que Google avait sur moi. J'ai décidé de plus suivre mes vidéos, etc., etc. Mais en fait, il faut être quand même hyper avancé pour faire ce genre de choses.
Et il faut être assez avancé. Après, et puis, c'est pas parce que vous vous désinscrivez que Google capte plus la donnée. Mais c'est déjà un premier pas.
Bon, écoutez, on doit malheureusement en rester là. C'est hyper intéressant. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que effectivement, c'est surtout une question de connaissance. On utilise tous Internet et on va aller en l'utilisant de plus en plus. Mais il faut savoir que ce qui est gratuit, eh ben, c'est que c'est nous le produit en fait, et que forcément, bah, tout ça, ça nécessite des dépenses en électricité qui sont énormes. Donc, mon conseil, ça sera en tout cas de faire toutes les choses en conscience et de bien s'informer avant de prendre des décisions. Voilà, c'est désormais tous à nous de jouer pour continuer à faire un web plus écologique. Je tiens à remercier tous nos invités pour leur intervention de qualité. On avait Clément Lebras de Lilo, on avait Louis Balladur de CleanFox et Julien Tourné de Sonora Labs. Je remercie également Mélanie Douanard pour son bon plan, Hélène Dédény pour son focus zéro déchet, Fabrice notre producteur et Raphaël à la technique. Et voilà, vous avez désormais plein de pistes pour réduire considérablement votre empreinte écologique quand vous naviguez sur le web. Un dernier conseil quand même, c'est que la prochaine fois que vous visionnerez une vidéo sur Internet, sachez que regarder un film en basse définition, ça permet de consommer 4 à 10 fois moins d'énergie qu'un visionnage en haute qualité. Ouais, c'était mon petit conseil de fin d'émission. Si le sujet aujourd'hui vous a passionné, je vous invite aussi à regarder le documentaire Internet, la pollution cachée, qui est très complet et qui vous permettra d'aller encore plus loin dans la compréhension de cet enjeu mondial. Vous retrouverez bien évidemment le podcast de cette émission sur le groupe Facebook de Ça commence par nous et sur rage.fr. Et la semaine prochaine, on parlera des cadeaux de Noël responsables. On vous donnera plein d'idées pour offrir des cadeaux qui ont du sens aux gens qui vous sont proches. Une belle manière de soutenir des projets éco-responsables, mais aussi d'éviter que vos cadeaux se retrouvent sur les sites d'occasion quelques jours seulement après Noël. Maintenant, c'est à nous de jouer. Nous avons tous le pouvoir de changer le monde et chaque geste compte. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à samedi prochain, 13h. Salut.